Déjà, 10 000 fonctionnaires fédéraux ont reçu des avis les informant de coupures de postes dans leur équipe de travail. Le gouvernement prévoit de supprimer 40 000 emplois dans la fonction publique. On pose la question à Annie Bolland, spécialiste en ressources humaines. Aujourd'hui, le fédéral redore-t-il son image sur le dos des fonctionnaires? Bonjour, Annie.
Bonsoir, Valérie.
D'abord, Annie, je vais souligner que lundi, c'était le jour de la marmotte et c'était le jour d'anniversaire d'Annie Boilard. Est-ce qu'Annie a vu son ombre lundi?
C'est donc bien gentil de me souligner ça. Donc, ça fait une belle journée, mais aussi, c'est la Chandler.
Oui.
La journée des crêpes, la journée où on mange des crêpes. Moi, c'est une tradition pour moi, t'imagines bien, c'est la journée de mon anniversaire.
Donc,
alors, on a tout fait ça.
Bah ben, oui, c'est correct. Alors, tant mieux, je te souhaite une très, très belle nouvelle année. On en est où dans les coupures de postes au gouvernement fédéral?
Eh oui, donc il y a déjà plus de 10 000 personnes qui ont reçu des lettres. Notre gouvernement souhaite réduire de 60 milliards les dépenses de fonctionnement de l'État sur 5 ans. C'est beaucoup. Alors, c'est certain que ça va faire de grands changements. Là, ce qui se passe pour nos fonctionnaires de la fonction publique, c'est qu'ils reçoivent des lettres leur indiquant qu'il y aura des coupures dans leur département, dans leur ministère. Ils savent pas exactement combien, puis ils savent pas quand spécifiquement. Mais ce que ça implique, c'est qu'ils savent qu'ils vont devoir repostuler pour conserver leur emploi. Ça veut donc dire qu'ils vont devoir repasser à travers des entrevues, démontrer que leurs connaissances sont toujours à jour. Leur dossier de performance va être analysé également. Puis, au bout de tout ça, les meilleurs employés vont être retenus, puis ils vont pouvoir continuer de travailler dans leur poste. Sinon, ben, il y aura des changements, ce sera ce qui va être au rendez-vous. C'est pas un processus qui nous est inconnu. Nous, au Québec, on avait utilisé le même processus lorsque nous étions passés à des CIUS. Les CIUS et CIUS, Valérie, si tu te souviens, là, c'est des regroupements des hôpitaux. Alors, il y a à peu près une décennie, on avait fait ce transfert-là et on avait utilisé ce même système. C'est pas facile pour les gens qui sont à travers cette démarche-là. C'est particulièrement difficile quand ça s'étire dans le temps parce que c'est un peu bizarre pour les gens de collaborer avec quelqu'un parce que c'est leur collègue au quotidien et en même temps savoir qu'ils sont en compétition avec ce même collègue pour leur poste. Alors, ça crée un drôle de climat de travail. On peut comprendre que c'est pas facile.
Puis les coupures de poste, ça se passe comment habituellement dans les entreprises privées?
Oui, Valérie, on appelle ça des restructurations dans les entreprises privées. Typiquement, ça va prendre une des trois formes suivantes. La première, c'est l'attrition, ce qui veut dire qu'on va simplement ne pas pourvoir, ne pas recruter pour combler les postes au fur et à mesure qu'ils vont devenir libres. La deuxième chose, c'est par l'ancienneté. Ça, on connaît tous, on connaît bien, c'est-à-dire les plus jeunes, les salariés les plus nouvellement embauchés vont être les premiers à quitter. Ou la troisième chose, c'est comme le fait présentement notre gouvernement fédéral. Présentement, les employés au fédéral qui sont touchés par ça, ils ont trois choix. Lorsqu'ils reçoivent leur lettre, ils ont trois options qui se présentent à eux. La première chose, c'est qu'ils peuvent prendre une retraite anticipée. On me disait qu'actuellement, la retraite va être à 55 ans. Le gouvernement leur offre de la prendre à 50 ans sans pénalité. Ça, Valérie, c'est ultra généreux.
Oui, oui, c'est le bonheur. Oui, oui, c'est ça.
Et même moi, ce que ça me dit, c'est que comme le gouvernement avance dans cette démarche-là, il ne faudra pas recruter puis accroître la taille de l'État après coup, parce que là, il serait vraiment sot de payer cher des retraites puis après ça, de recruter pour combler ces absences-là. Il faut bien être structuré. La deuxième chose, c'est que les employés peuvent décider de prendre une indemnité ou encore d'être transférés dans un autre département. Fait que là, Valérie, tu vas me dire, hein, ben là, pourquoi autant de blabla autour de cette histoire-là? Somme toute, ce sont des excellentes conditions qui sont offertes aux fonctionnaires. Puis d'une façon ou d'une autre, ils vont peut-être même pas perdre leur job. Ils peuvent toujours transférer dans un autre département.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Alors, c'est sûr que du point de vue des non-fonctionnaires, d'abord, on reconnaît que ce sont des conditions généreuses. Puis on se dit, mais c'est toujours comme ça dans la vie, là, tout le monde peut perdre son emploi. Pour les fonctionnaires, c'est un peu plus difficile. C'est plus difficile parce que d'abord, eux, quand ils ont fait leur choix de carrière, souvent, ils ont troqué une sécurité d'emploi contre le fait de travailler dans un environnement qui allait être plus bureaucratique, plus lourd. Bien là, aujourd'hui, l'environnement lourd demeure, mais la sécurité d'emploi, elle, est plus chambranlante. Puis le deuxième élément, c'est que c'est le ministère mondial Canada qui est le plus touché. Ça, en simple, c'est l'ancien ministère des Affaires étrangères. C'est eux qui sont le plus touchés par les coupures. Et on sait que les départements qui vont engager, c'est souvent la défense. Alors, on peut comprendre que c'est pas parce que tu travailles au niveau des affaires internationales que ça te tente d'aller au niveau de la défense. Fait qu'on comprend que c'est un petit peu plus carré pour les fonctionnaires, bien que, hein, reconnaissons que personne ne fait pitié dans cette histoire-là. Il y a bien des gens qui voudraient avoir ces conditions.
Puis il n'y a pas juste les coupures de poste. Il y a des réflexions pour publier des informations sur les employés sous-performants. Puis il y a aussi l'idée de ramener le personnel de direction là, toute la semaine, là, 5 jours semaine.
Elle a pas raison. L'histoire de publier l'information sur les employés sous-performants, ça s'est passé dans l'actualité le 23-24 décembre, donc un petit peu sous les radars. Moi, au début, ça m'a fait sourciller. D'abord, clarifions qu'évidemment, ils vont pas publier les noms des gens. C'est bien des statistiques par ministère. Et que quand on parle d'un employé en sous-performance, ça veut pas dire les moins performants de la gang, mais c'est vraiment parce que là, il y a une problématique au niveau de la performance. C'est comme ça qu'on définit de la sous-performance. Alors, au début, j'ai sourcillé, puis après ça, je me suis dit, « Hey, si c'était une bonne affaire, cette affaire-là, dans le sens où, un, on va s'entendre, il y a certains stéréotypes qui sont maintenus en lien avec la fonction publique. Hein. Il y a des gens qui diront, si vous laissez bien dire, c'est pas des gens qui travaillent très, très fort, puis là, je veux pas tomber dans la caricature, mais on entretient des stéréotypes sur cette population. Mm. Je me disais, imaginons qu'ils publient de telles statistiques, puis qu'on réalise que finalement, il y en a très peu des fonctionnaires en sous-performance. Peut-être que ça l'aiderait pour leur image. Ou à l'inverse, si j'ai tort puis il y en a plus qu'on pense, ben on verrait avec le temps ce chiffre s'améliorer. Puis on pourrait encore conclure que les choses vont mieux. Il faut dire que la démarche est aussi accompagnée du souhait de réduire les critères pour être capable de congédier un employé syndiqué dans la fonction publique. Donc, à suivre. Mais quand on met tout ça ensemble, la rumeur de ramener 5 jours semaine en présentiel les dirigeants de la fonction publique fédérale, de publiciser des informations sur les sous-performants, les coupures de poste et le fait que les gens doivent être requalifiés pour maintenir leur emploi. Je me disais, Valérie, je pense que oui, le gouvernement fédéral redore son image sur le dos des fonctionnaires, mais peut-être que ça va être bon à long terme pour eux. Puis là, je te donne mon exemple personnel. Moi, quand j'attends pour aller acheter un café, par exemple, là, et qu'il y a quelqu'un qui arrive, puis je vais dire, habillé en hôpital. OK, clairement, on sait tous c'est quoi, habillé en hôpital. Mm-hmm. Mais je le laisse toujours passer devant moi, Valérie, parce que je me dis toujours, merci, merci pour ce que vous faites pour la communauté, ça me fait plaisir, prenez ma place. Puis je me disais, imaginons qu'un jour, on dirait la même chose de nos fonctionnaires fédéraux. Peut-être qu'un jour, on se dirait, ce sont tellement des employés d'élite, là, des gens qui ont été triés sur le volet, qui ont été requalifiés pour leur poste, qui sont en haute performance, des gens qui se dédient à l'État, des gens qui sont généreux de leur temps, engagés. Peut-être qu'un jour, ça ferait qu'on regarderait cette population puis on dirait « Hey, merci pour ce que vous faites ». Puis au lieu d'avoir les stéréotypes dont on parlait tantôt qu'on entretient pour certains fonctionnaires, mais peut-être que là, au contraire, ils jouiraient d'une belle réputation. Puis dans certains pays, c'est comme ça. Alors, qui sait? C'était ma réflexion du moment, chère Valérie.
Bien, ça termine sur une très belle pensée. Générosité de ta part aussi, Annie.
Mais ça fait très plaisir. Il me reste à te souhaiter une très belle soirée.
Oui, bonne soirée. On se reparle la semaine prochaine.
Avec plaisir, au revoir.
C'est Annie Bollard, la présidente du réseau Annie RH.